Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Venez, Esprit Saint, remplissez le cœur de vos fidèles et allumez en eux le feu de votre amour. Oui, votre Esprit, Seigneur, se fera une grâce nouvelle.
Et vous renouvellerez la face de la terre.
Prions, ô Dieu qui avait donné, envoyez votre Esprit sur ce monde, donnez-nous, par ce même Esprit, de comprendre et d'aimer ce qui est bien, et de jouer sans cesse ces divines consolations par le même Jésus-Christ, notre Seigneur.
Ainsi soit-il.
Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ainsi soit-il.
Saint Ange gardien,
veillez sur nous.
Saint Pédis,
priez pour nous.
Saint Joseph,
priez pour nous.
Saint Ignace de Loyola,
priez pour nous.
Saint Thomas d'Aquin,
priez pour nous.
Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. J'ai finalement mis ces petites causeries que je vous donne sur Internet sous l'onglet des sermons, parce que ça peut peut-être être utile à d'autres personnes. Bon, aujourd'hui, je voudrais aborder une autre question qui est très importante dans la préparation au mariage. Je vous donne ce texte, que, même si vous le connaissez déjà. Il n'y en a peut-être pas pour tout le monde, il en manque un ou deux. Donc, tout ce que je vous dis, voilà. C'est plus facile si vous avez le texte sous les yeux. Donc, je voudrais aborder une question qui est importante, à savoir l'usage de l'usage du mariage. Le mariage n'est pas simplement une union des âmes, c'est aussi une union des corps. Alors, sur ce sujet, un certain nombre de choses doivent être précisées. D'abord, c'est absolument pas le rôle du prêtre de faire une espèce d'éducation sexuelle des fiancés. C'est pas du tout le rôle du prêtre, donc je le fais catégoriquement, c'est mon travail. Bon, il y a des choses que les fiancés doivent savoir, souvent qu'ils regardent par exemple le médecin, qui regardent aussi les parents. Je pense qu'il y a un devoir d'état là, de la part des parents qui doivent expliquer certaines choses à leurs fils. Les parents, les pères à leurs fils, les mères à leurs filles. Encore une fois, c'est le devoir des parents. Et de voir aussi des choses qui regardent le médecin. Et des choses qui regardent le prêtre, et ça, c'est ma partie. Alors, concernant l'usage du mariage et les textes du magistère, il y a deux erreurs à éviter. Rappelez-vous que, je vous ai déjà expliqué souvent ça au cours, quand on touche aux vertus dites cardinales, et là, ça va toucher la vertu de tempérance. Vous savez qu'il y a quatre vertus cardinales qui sont... Qu'est-ce ton première communion?
La force, la justice, la prudence,
la tempérance.
Bon, ne prenez pas tous en même temps. Donc, ça va toucher la tempérance. Donc, n'oubliez pas que toutes les vertus cardinales et les vertus morales se situent sur une crête entre deux excès, contrairement aux vertus théologales. C'est très important de comprendre ça, c'est mon saint Thomas. Quand on parle des vertus théologales, il y en a trois qui ont Dieu pour objet, qui sont...
Foi, espérance, charité.
Qu'est-ce qu'ils sont doués? Bon, foi, espérance, charité. Donc, foi pour croire, espérance pour prier, et charité pour obéir à l'ordre du bon Dieu. Donc, c'est des vertus qui ont Dieu pour objet. Dieu étant infini, on ne peut jamais avoir trop de foi, trop d'espérance, trop de charité. Donc, c'est des vertus qui augmentent, qui augmentent, qui augmentent. Par contre, toutes les autres vertus, dites cardinales ou vertus morales, sont des vertus qui se situent sur une crête. Donc, on peut tomber ou d'un côté ou de l'autre. Donc au-dessus de ces vertus, il y a une vertu qui va jouer, dit saint Thomas d'Aquin, le cocher des vertus. C'est laquelle?
Prudence.
La prudence, voilà. Ils ont bien déformé, hein. Bon, la vertu de prudence. Bon, la vertu de prudence est donc capitale dans tous ces domaines-là. Donc là, on va donc parler essentiellement des vertus de tempérance, avec la vertu de prudence qui, en quelque sorte, va illuminer la vertu de tempérance. Donc il y a deux obstacles à... éviter, deux erreurs à éviter qui sont aussi graves l'une que l'autre. Donc, un côté, c'est tomber dans une espèce de rigorisme dans ce domaine, et de l'autre côté, tomber dans une espèce de laxisme dans ce domaine. Les deux choses sont condamnées par l'Église. Alors, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de risques parmi les catholiques de tradition, c'est des vagantistes, de tomber dans l'excès du laxisme. Par contre, il y a des risques certains de tomber dans l'excès du rigorisme. Bon. J'en sais quelque chose parce que je suis actuellement en contact en pointillé avec des gens qui m'envoient des messages derrière des fagots pour essayer de faire changer la doctrine de l'Église concernant ce sujet. Vous savez que les deux textes essentiels dans le domaine de l'usage du mariage, c'est d'abord la grande encyclique du pape Pie XI, à savoir Castico Nubi. Donc les papes Pie XI, c'est Castico Nubi, 31 décembre 1930. Donc ça, c'est vraiment le document que tous les époux chrétiens devraient bien connaître, on va en parler. Le deuxième texte, c'est le discours aux sages-femmes du pape Pie XII du 29 octobre 51. Alors, ces deux textes, on peut les avoir relativement facilement sur Internet. Je vous conseille beaucoup pour toutes les... vous qui êtes bientôt mariés. Ayez chez vous un livre qui, à mon avis, résume toute la doctrine de l'Église, plus tout le catéchisme sur ce sujet-là. C'est le catéchisme catholique du père Barbara. C'est excellent. C'est le livre qu'on utilise au séminaire pour la formation sur le mariage. Je vous la conseille beaucoup. C'est un livre... Alors, attention, ce n'est pas un livre qu'il faut lire comme un livre normal. C'est plus un dictionnaire. Dictionnaire, c'est qu'il y a tous les textes du magistère sur le sujet, c'est entièrement traditionnel, c'est du bon sens. Le père Barbara était un homme qui avait été en Afrique du Nord, donc il avait beaucoup de bon sens, parce qu'il a travaillé dans les missions, ça se sent. Et c'est un livre qui est sûr au niveau de la doctrine. Donc, essayez de vous le procurer. Il est encore en vente à la chapelle du père Barbara à Tours. Donc ça, c'est vraiment un livre que je vous conseille d'avoir. Même si ce n'est pas un livre qu'on doit consulter tous les jours. Alors, donc il y a deux écueils à éviter. Alors, le premier, l'écueil du libéralisme, qui consiste à dire que les textes du pape Pie XII, à savoir le texte du mois d'octobre 1951, un texte important dans lequel le pape Pie XII parle des méthodes naturelles de contrôle des naissances. Donc, c'est un truc très pratique et qui est important de connaître, que tous les époux doivent connaître. Alors, le libéralisme, ça consiste à dire que le pape Pie XII a autorisé ces méthodes sans aucune limitation et que n'importe qui peut les utiliser n'importe quand. Ça, c'est le laxisme. Ce laxisme est très dangereux parce qu'il ouvre la porte à un laxisme sur le plan sexuel invraisemblable où on peut faire tout ce qu'on veut. Ça, c'est une erreur à éviter à droite, si vous voulez, à gauche. L'autre erreur, à mon avis, encore plus dangereuse, un certain nombre de gens précises pensent que le pape Pie XII s'est trompé dans son encyclique, dans sa lettre, dans son discours aux sages-femmes, et que donc il contredit le pape Pie XII, et que donc c'est un péché de suivre les conseils du pape Pie XII. Pour dire une chose pareille, il faut être ou fou, ou déclarer que Pie XII n'est pas pape. Je ne vois pas d'autre solution. Donc dans la pratique, ils n'osent pas trop dire que Pie XII n'est pas pape, mais c'est ce à quoi ça revient. N'oublions pas que ces deux textes, que ce soit Castico Nubi, que ce soit le discours aux sages-femmes, sont des textes qui sont écrits par quelqu'un qui parle comme pape. Il ne parle pas comme docteur privé, mais comme pape. Donc successeur de Saint-Pierre et représentant notre Seigneur Jésus-Christ. Il parle sur la foi et les mœurs, d'accord ? Il parle avec intention d'obliger toute l'Église. Les quatre conditions d'un document ex cathedra sont là. Donc ce sont des textes infaillibles des deux côtés. Donc, c'est, à mon avis, une malhonnêteté intellectuelle extrêmement grave que d'essayer d'opposer un texte contre l'autre. Ça, c'est les modernistes qui font ça. Et aussi, des gens qui ne connaissent pas leur doctrine du côté catholique, si vous voulez. Donc, ils cherchent à opposer les deux textes en disant que Pie IX, Pie XII et Pie XI se disent des choses contradictoires. En tant que catholique, il faut simplement reconnaître une chose. Ces deux textes sont catholiques, ces deux textes sont infaillibles. Donc, ils ne s'opposent pas, ils se complètent. C'est du bon sens. À faire très attention parce que ça devient très à la mode dans les milieux traditionnalistes, surtout auprès de gens qui ne sont pas toujours très équilibrés. Je ne vais pas donner de nom parce que ça passe sur Internet. Mais c'est souvent donné par des gens qui connaissent mal leur doctrine et qui surtout veulent toujours être, comme on dit, plus royalistes que le roi. Donc, un certain nombre de gens enseignent, donc ils se prennent pour des docteurs de l'Église, et des papes qui enseignent, donc c'est des gens qui se prennent pour des papes, qui enseignent que des époux ont le droit d'avoir des relations conjugales, des rapports conjugaux, exclusivement quand ils ont un enfant. C'est faux. L'Église n'a jamais enseigné ça. Preuve, reprenez les deuxièmes, les fins secondaires du mariage. Vous rappelez les deux fins secondaires du mariage qui sont l'amour mutuel entre les époux et le remède à la concupiscence. Donc, des époux chrétiens ont parfaitement le droit d'utiliser un acte qu'ils ont droit de faire en tant qu'époux, soit comme remède à la concupiscence, soit pour se prouver l'un à l'amour mutuel. D'accord ? Bon. Donc, il est parfaitement catholique pour deux époux d'avoir des relations conjugales, même quand ils ne peuvent pas avoir de fruits de leur acte, de conception comme issue de leur acte, parce que l'épouse est dans sa période de stérilité naturelle, voulue par le bon Dieu. Si le bon Dieu a voulu que les femmes marchent sur un cycle, il y a une raison, pas pour rien. Bon. Et s'il a voulu que les hommes ne marchent pas sur un cycle, il y a aussi des raisons. Bon, ça ne va pas parler tout ça parce qu'on ne peut pas tout couvrir. Mais je pense que c'est très important. Donc, on suit la doctrine catholique des deux côtés. D'une part, on ne raconte pas des choses qui n'ont jamais été dites par le pape. On ne peut pas dire à gauche, si vous voulez, que le pape Pie XII a autorisé l'usage du contrôle naturel des naissances, dans tous les cas, parce que c'est faux. Et d'autre part, on ne fait pas dire non plus au pape Pie XI ce qu'il n'a pas dit, au pape Pie XII ce qu'il n'a pas dit, à savoir que seules sont tolérées les relations conjugales entre époux lorsqu'ils sont sûrs d'avoir un enfant. Bon. Alors, dans tous ces domaines-là, il faut faire un peu attention, parce qu'il y a parfois, souvent au niveau des dames, des femmes, une espèce de certaine inquiétude dans ce domaine, ce que je comprends, à cause de une certaine pruderie que peuvent avoir certaines personnes qui n'est pas du tout un péché en tant que tel. Donc, il ne faut pas dire non plus ce qu'on entend parfois dans les bouches de certaines femmes, surtout d'un certain âge, c'est que l'acte conjugal entre des époux est une triste nécessité, comme ils disent. Ou, voire même, ça je l'ai entendu, c'est quelque chose de mauvais, de malsain. Non. Puisqu'il y a toute lettre qu'entre Seigneur Jésus-Christ a créé l'homme et la femme, c'est dans le texte de la Genèse, Dieu vit que cela était bon. Donc c'est un acte qui est bon en soi. Et qui n'est pas, encore une fois, et j'insiste là-dessus, parce que ça, beaucoup de gens enseignent le contraire, soit d'un côté et de l'autre, qui n'a pas pour but exclusif la propagation de l'espèce humaine, mais aussi qui a pour but de permettre aux époux de se manifester leur tendresse et leur amour. Oui, donc il faut que les choses soient parfaitement claires dans ce domaine. Alors, encore une fois, ce sont ces deux textes, Casticonobi et Discours aux sages-femmes, n'en déplaisent aux uns et aux autres, que ce soit des gens à gauche, des gens à droite, ces deux textes sont couverts par l'infirmité pontificale. N'oublions pas que ceux qui disent que le texte de Pie XII s'oppose au texte de Pie XI, Casticonobi, en fait, nie l'infaillibilité pontificale de ce texte. Ceux qui disent que le pape a autorisé cette méthode dans n'importe quelle circonstance, nie aussi l'infaillibilité de ce texte. Donc là, on voit très bien que les deux extrêmes se réunissent. Faites attention, parce que une chose que j'ai remarqué, ça m'a beaucoup frappé dans la fraternité Saint-Bilis, on avait déjà au séminaire des gens qui étaient un peu extrémistes dans ce genre, plutôt du côté droit, c'est-à-dire des gens qui voulaient aller être plus royalistes que le roi. C'est très intéressant de voir que tous ces gens qui voulaient être plus royalistes que le roi sont maintenant passés complètement du côté de l'Église de Vatican II. Hein? Et pourquoi ? Parce qu'il y a un manque d'équilibre. Quand il y a un manque d'équilibre dans ce domaine, c'est extrêmement dangereux. D'accord ? Donc, il faut bien comprendre les choses. On prend les textes infaillibles des papes et on ne cherche pas à les transformer pour les accorder à nos petites positions personnelles sur le sujet. C'est pour ça que moi, là par exemple, il y a un type que je ne connais pas qui me spie avec des messages électroniques. Il essaie de prétendre il prétend dans ses textes que le pape Pie XII s'est trompé et dit le contraire à ce qu'a dit le pape Pie XI, donc le pape Pie XII se trompe. Bon. Je lui ai répondu, Rome a parlé, la cause est terminée. Dans le domaine du contrôle naturel des naissances, un pape, Pie XII, s'est donné la peine de préciser les choses pour que les choses soient claires dans ce domaine. Il engage son infaillibilité pontificale parce qu'il parle comme pape avec intention d'obliger toutes les guises sur la foi et les mœurs. Il y a donc péché grave pour un catholique de nier cet enseignement, sauf s'il prétend que Pie XII n'est pas pape. Mais à ce moment-là, je voudrais savoir où on s'arrête. Bon. Quand j'étais au séminaire, Mgr Lefebvre a été obligé de mettre à la porte un séminariste mexicain qui niait que Saint Pie X soit pape. Rien que ça. Bon. Alors, Mgr Lefebvre lui a dit, quand il a pris ça, il a dit, écoutez, je trouve personnellement que, Monseigneur Lefebvre qui parle, que Sainte Marie-Madeleine, quand même, la façon dont notre Seigneur Jésus-Christ lui a pardonné, c'est quand même un peu libéral. Alors, à mon avis, notre Seigneur Jésus-Christ s'est trompé, donc il n'y a plus de pape, plus d'église, et vous allez à la porte. Ce qu'il a dit. Et il l'a mis dehors, sous le champ. Il a eu raison, parce qu'on s'arrête tout comme ça. Vous voyez, dans ce domaine des documents pontificaux, faire très attention de ne pas faire entrer l'esprit protestant. L'esprit protestant, c'est quoi? C'est libre examen. Donc chacun prend les papes, on interprète ce qu'on veut, on détruit, on change le sens des textes, on fait dire n'importe quoi. Attention. Bon, ceci dit, bien sûr, il faut du bon sens. Il est évident qu'à partir de 1958, mort du pape Pie XII, il y a un changement substantiel dans l'enseignement de ceux qui se prétendent pape, et que là, ils enseignent l'opposé de ce que l'Église a toujours enseigné. Ça, bon. Donc, on élimine. Il est évident que, en tant que prêtre, je suis non ou nacum, c'est l'évangéliste, comme vous voulez, appelez ça comme vous voulez, je préfère le terme non ou nacum, parce que je suis ce que l'Église catholique a toujours enseigné. Il ne faut pas non plus tomber dans l'excès inverse, qui consiste à vouloir avoir des contradictions entre les papes partout. Non. Bon. Il est évident qu'il y a des choses qui peuvent changer. Je vous donne un exemple tout simple. Vous allez comprendre par un exemple. Regardez l'enseignement de l'Église concernant le jeûne eucharistique. Bon, le jeûne eucharistique traditionnel avant Pie XII, c'était quoi? Minuit. Donc, depuis minuit, on ne pouvait rien manger, pas une goutte d'eau, rien à manger avant les messes. Pourquoi?
Parce que
la messe était toujours dite le matin, et en général, tôt le matin en semaine. Donc, en général, les premières messes commençaient à 5h dans les paroisses, il y a beaucoup de prêtres, et de 5h à 7h, il y avait toutes les messes. Donc, ce n'était pas compliqué pour les fidèles, de suivre un jeûne eucharistique depuis minuit, s'il y a une messe à 7h, tout le monde peut faire ça. Bon. Le pape Pie XII a jugé bon d'autoriser les messes le soir. Bon. On peut ne pas être d'accord, on peut ne pas aimer, mais c'est un fait, il a autorisé les messes du soir. Pourquoi? Parce que ça correspond à un changement dans la vie de beaucoup de gens, qui à cause des moyens de transport, à cause du fait qu'ils sont obligés d'aller de plus en plus loin pour travailler, peuvent être obligés de prendre des moyens de transport tôt le matin, ils ne peuvent pas assister à la messe ce matin. Or, beaucoup de gens aimaient bien aller à la messe tous les jours, souvent en semaine. Donc, il a autorisé les messes du soir. Il n'a rien à dire là-dessus. Bon, s'il autorise ces messes du soir, évidemment, il était obligé, en quelque sorte, de changer les lois sur le jeûne eucharistique. On ne peut pas demander à quelqu'un qui va à une messe à 6h du soir, en rentrant du boulot, d'avoir un jeûne eucharistique sans rien manger, sans boire, depuis minuit. C'est du bon sens alimentaire. Eh bien, c'est pareil pour tout. Donc, l'esprit est toujours le même, c'est simplement l'interprétation de la loi qui va changer dans un domaine dans lequel le pape a autorité. Le pape n'a pas autorité pour changer la matière ou la forme d'un sacrement. Le pape n'a pas autorité pour changer la fin pour laquelle Dieu a institué un sacrement. Donc, tous les papes du monde, jusqu'à Pie XII inclus, reconnaissent que la fin première est l'éducation, la procréation des enfants. Cependant, encore une fois, ça ne veut pas dire du tout que des époux ne peuvent pas avoir de relations matrimoniales, de relations conjugales, et s'ils savent très bien que pour une raison physique, à cause du cycle féminin, que l'épouse ne peut pas avoir d'enfants à ce moment-là. Oui. Encore une fois, il faut du bon sens. Alors, essayons d'expliquer un petit peu ce que l'Église enseigne sur ce sujet. Alors, vous avez ici ces textes, donc ces deux textes fondamentaux. Donc, le premier, encore une fois, c'est le texte de Cassiconubi, Pie XI, 31 décembre 1930, texte infaillible, bien sûr, sur le mariage chrétien. C'est aussi que le deuxième texte du pape Pie XII, du 29 octobre 1951, est aussi un texte infaillible. Alors, une petite note qui est importante. Beaucoup de gens pensent à tort que le pape Pie XII, dans son allocution aux sages-femmes, n'est pas infaillible parce qu'il s'adresse qu'aux sages-femmes. Vous savez qu'une des conditions pour qu'un texte puisse être infaillible, c'est la condition d'universalité. Le pape adresse un texte à toute l'Église. Bon. Il faut du bon sens. Lorsque le pape Pie XII profite d'un congrès international de sages-femmes, puis surtout des sages-femmes italiennes en 1951, et il parle en tant que pape à ces sages-femmes, il n'oblige pas exclusivement les sages-femmes à qui il parle. D'accord ? C'est du bon sens élémentaire que le pape s'adresse à toute la chrétienté en explicitant un point sur lequel il y a une confusion au niveau des gens. Pour être sûr que les gens suivent bien la loi de Dieu, il explique un point de détail qui est très important. Donc c'est pas simplement aux sages-femmes qui s'adressent à tout le monde. J'en veux pour preuve que, par exemple, dans la Fraternité Saint-Pédis, que j'ai quand même été membre pendant 35 ans, j'ai un peu de quoi je parle quand même, dans la Fraternité Saint-Pédis, les prêtres ont toujours, à ma connaissance en tout cas, parce que c'est moi, c'est ce que je faisais, si j'avais au confessionnal des époux qui me disaient « Monsieur l'abbé, je refuse d'accepter l'enseignement du pape Pie XII concernant les relations, le contrôle naturel des naissances données par le pape Pie XII en 51, je refuse ce texte, je refuse une nette absolution. » Imaginez des parents qui me disent « Monsieur l'abbé, le pape Pie XII a autorisé le contrôle naturel des naissances dans n'importe quelle circonstance, donc on suit ça sans aucune raison. » Madame, monsieur, je vous refuse l'absolution, parce que ce n'est pas ce qu'a dit le pape Pie XII. D'accord ? À ma connaissance, en tout cas, auparavant, pratiquement tous les prêtres de la fraternité faisaient ça. Ça prouve donc bien qu'ils considéraient que ce texte était infaillible. Il est évident, attention, j'arrête tout de suite, ça, c'est important, encore une fois, à partir de 1958, mort du pape Pie XII, on est bien obligé de reconnaître que là, il y a une distinction, une différence substantielle dans l'enseignement. Donc l'enseignement à partir de Pie XII, à partir de la mort du pape Pie XII, donc en 1958, cet enseignement n'est plus catholique. Bon. Donc je refuse de donner, par exemple, comme texte à lire aux gens que je prépare au mariage, par exemple, l'encyclique Humanae Vitae de Paul VI. Pourquoi ? Parce que ça n'a plus la clarté, la netteté d'un texte pontifical infaillible. Alors, donc, à ce propos, donc, qu'est-ce qu'il faut dire ? Il faut quand même parler un petit peu certaines choses. Donc, qu'est-ce qu'il faut dire ? D'abord, un certain nombre de règles générales qui ne sont pas explicitées par le pape, mais ça c'est le catéchisme traditionnel, tout simplement. Vous avez toutes ces règles bien expliquées dans les livres du Père Barbara, la catéchèse catholique du mariage. Bon, le bon Dieu a voulu, entre les deux époux, un acte conjugal qui est donc bon par nature. Donc, deux époux qui sont mariés ont un droit strict à cet acte conjugal et au plaisir qui dépend de cet acte conjugal. C'est ce qu'on appelle le dû conjugal. Quand on parle du dû conjugal, c'est le devoir de le donner au conjoint qui le demande et le droit de le demander. Bien comprendre qu'il y a deux choses. Donc, un époux a le droit de demander à son épouse le dû conjugal, et l'épouse a le droit de rendre le dû conjugal. Un époux a le droit de demander le dû conjugal et d'avoir le plaisir qui correspond à ce dû conjugal, et l'épouse a ce même droit. Pourquoi ? Parce que par le mariage, les deux époux se donnent un droit mutuel pour les actes nécessaires à la procréation. Hein, ça, c'est le droit canon traditionnel de l'Église. Donc, première chose à comprendre, cet acte étant bon et voulu par Dieu, il n'y a aucune loi d'Église qui précise des temps interdits dans ce domaine. Il y a beaucoup de gens qui pensent qu'il y a des choses qui sont interdites, que les époux n'ont pas le droit d'avoir une relation conjugale, par exemple la veille d'une communion. Bon, il n'y a aucun texte d'Église qui l'interdit. Ça, c'est très important. Il y a des gens comme ça. Il y a des textes qui ont été écrits par des gens qui ont une tendance, que j'appelle moi une tendance janséniste, qui précise, qui pense que des époux qui ont eu une relation conjugale la nuit de samedi au dimanche ne peuvent pas communier le dimanche. C'est ridicule. Ces textes, ils n'existent pas. Aux prêtres qui prétendent qu'ils existent, qui me le montrent. Il n'y a pas un seul texte de l'Église là-dessus. D'accord ? Donc il n'y a aucune loi dans ce domaine. Pareil pour l'Avent et le carême. Bon, c'était une coutume qui n'est pas une obligation. Avant, dans les siècles de foi, la pénitence classique, traditionnelle, que les époux chrétiens suivaient pendant le temps de carême surtout, et peut-être un peu aussi pendant le temps de l'Avent, c'était de s'abstenir de pratiquer la chasteté conjugale pendant le temps du carême et le temps de l'Avent. Ce n'est pas une obligation. C'est une promesse personnelle qu'ils peuvent faire, pour faire pénitence, pour expier des péchés passés, etc. Mais il n'y a pas d'obligation. Même, on peut aller plus loin que ça. Supposer deux époux qui aient décidé, le mercredi décembre, voilà, bon, pour rattraper nos péchés passés, par amour pour le bon Dieu, pour montrer au bon Dieu qu'on l'aime de toutes nos forces, eh bien, nous allons pratiquer la chasteté pendant le temps du carême. Bon. Et au bout d'une semaine, 15 jours ou 3 semaines, l'époux dit à sa femme, écoute, ben c'est quand même un avenir difficile parce que le bureau et les tentations, et le monde moderne et les tentations partout affichées sur chaque mètre carré des murs dans les grandes villes. Et j'ai trop de tentations, je demande le dû conjugal. L'épouse est obligée de donner. D'accord ? Est obligée de donner, pourquoi ? Parce qu'il se marie pour ça. D'accord ? Donc ça, c'est très important. C'est pour ça que dans ce domaine, ne faites jamais de vœux. Hein ? Ne faites jamais de vœux comme ça. D'abord, ce sont des vœux qui en soi sont invalides. Bon. Sauf raison supérieure. Par exemple, deux époux pourraient, c'est le cas par exemple, ce qu'on appelle des mariages en blanc. Attends, c'est Vierge Marie, Saint-Joseph, par exemple, ou Saint-Henri d'Allemagne et Sainte-Cunégonde, par exemple, qui avaient fait vœu de chasteté dans le mariage. Je dirais que c'est des exceptions à admirer, certainement pas à imiter dans le monde moderne. Bon, je dirais conseiller à aucun homme de faire un truc comme ça. Bon. C'est beaucoup trop dangereux. Donc, le droit conjugal est un droit réel de tous les époux mariés. Donc, première chose, j'ai déjà expliqué ça, c'est important, il n'y a aucune règle de l'Église qui interdise à certaines époques de l'année, pour des raisons liturgiques ou autres, qui interdise l'usage du mariage entre deux époux. Donc, ce n'est pas parce que vous avez usé de ce droit légitime que le bon Dieu vous donne, que vous avez interdiction de commis l'endroit. Ça n'existe pas, et malheureusement, il y a des gens qui enseignent ça dans la partie, je dirais, dans des gens qui ont un esprit un peu janséniste, parce que ça, c'est du jansénisme pur et simple. D'accord ? Encore une fois, il y a eu des hérétiques qui ont enseigné, entre autres, c'était les cathares, donc les albigeois, les manichéens aussi, qui ont enseigné que l'acte conjugal fertile était un péché. Je notais le mot fertile. Ils considéraient que l'acte conjugal qui donne des enfants est un péché. Donc, était autorisé pour les albigeois l'acte conjugal entre deux époux qui ne donne pas d'enfants. Vous voyez un petit peu les portes qu'on ouvre avec ça. À peu près n'importe quoi était autorisé. C'était ça, hein, les cathares. Quand on présente les cathares comme des petits agneaux tout doux, tout gentils, tout mignons, qui pénaient en cœur et qui ont été abominablement massacrés par les catholiques, c'est pas exactement ça. Hein. C'est d'abord des manichéens et des hérétiques épouvantables. D'accord ? Alors. Donc, dans ce domaine, faire attention. Deuxième règle. Encore une fois, je ne vais pas rentrer dans les détails, je vous donne simplement des règles générales. Sont autorisées entre époux toutes les caresses, les baisers, les choses comme ça, qui facilitent, qui préparent ou qui concluent l'acte conjugal. D'accord ? Donc, de ce côté-là, il n'y a pas de péché non plus. Cependant, je dirais surtout aux hommes de faire très attention dans ce domaine, surtout de respecter une certaine pudeur qui est beaucoup plus forte chez la femme que chez l'homme. Et ça, c'est voulu par le bon Dieu. C'est comme ça qu'il y a une différence, si vous voulez, entre la psychologie d'une femme et la psychologie d'un homme. Je serai plus employé la prochaine fois si j'ai le temps. Bon. Et donc, il faut faire attention. Justement, ça demande, surtout de la part des époux, une certaine retenue, une certaine charité, et disons-nous, une certaine abstinence, parfois nécessaire. J'ai connu des époux, surtout des époux qui se marient un peu tard. J'ai eu plusieurs cas comme ça, d'époux ou d'épouses qui ont eu du mal à accepter l'acte conjugal. Il aura fallu un certain temps avant, si vous voulez, de se laisser toucher par leur époux, etc. Bon, il est évident qu'une épouse qui dit de façon absolue « Mon époux ne me touchera pas, il couche là-bas et moi je couche de l'autre côté de la maison », ça va pas. Bon, c'est absolument évident, du bon sens élémentaire. Cependant, les hommes doivent apprendre à respecter la pudeur de leur épouse, et il est normal, je dirais, qu'une jeune fille qui a été bien formée par ses parents dans ce domaine ait une certaine pudeur devant cet acte. Donc, deuxième chose qui me semble aussi très importante, c'est que les hommes fassent très attention, justement, à cause de cette pudeur, de ne pas exiger de leurs épouses des choses qu'ils auraient en soi le droit d'exiger, certaines caresses, certains baisers, des choses comme ça, mais qui ne plaisent pas à votre épouse. Prenez comme règle entre vous, comme preuve de votre amour, une fois que vous êtes marié, de ne jamais imposer au conjoint quelque chose même que vous avez le droit de faire, mais qui ne plaît pas au conjoint. Vous voyez ? Il y a un respect à avoir là-dedans qui me semble absolument fondamental. Surtout aujourd'hui, n'oubliez pas que, soyez, je m'excuse d'être un peu direct, mais vous n'êtes pas des enfants de cœur, hein, vous êtes des adultes, vous allez vous marier bientôt, et vous avez besoin de savoir certaines choses. Donc, qu'on le veuille ou non, on vit dans un monde dans lequel la sexualité a tout envahi. Bon. On a aussi complètement détruit la féminité de la femme. la féminité de la femme a été détruite tout simplement en transformant, demandant à une femme féminine de devenir une femme, je m'excuse du terme qui est horrible, mais c'est le seul terme que je connais pour expliquer ça, une femme sexy. Ça, c'est la transformation du monde moderne. En transformant, en rendant une femme féminine, en transformant une femme sexy, on fait de la femme un objet. Un simple objet de plaisir. Un époux chrétien n'a jamais, jamais, jamais le droit de considérer son épouse comme un simple objet de plaisir. Il n'y a pas le droit. Ça, c'est un péché gravissime. Parce que c'est un mépris souverain pour le corps de sa femme. Ceci dit, il y a un don mutuel physique. Un époux se donne physiquement à son épouse et réciproquement pour les actes nécessaires pour la procréation. Donc, faire attention dans ce domaine-là. Alors, une chose qu'il faut aussi comprendre, c'est que vous voyez ou non, c'est un fait, encore une fois, contra factum non valet argumentum, c'est-à-dire contre les faits, les arguments ne valent plus rien, c'est que les hommes, pratiquement tous les hommes, sauf celui qui a vécu dans une grotte au sommet d'un arbre ou au sommet d'un arbre pendant toute sa vie, ce qui est quand même assez rare qu'on ne rentre pas tous les matins, tous les hommes qui vivent dans une proximité d'une grande ville, par la force des choses, ont bien été contaminés par une espèce de laisser-aller sur plan sensuel et par l'ambiance, si vous voulez, sexy, sexualiste, appelez ça comme vous voulez, voire même pornographique, qui règne sur tous nos murs. Qu'est-ce que vous voulez ? On n'y peut rien, c'est comme ça. Donc, les hommes doivent faire attention à ces choses-là. En plus de ça, dans la pratique, le rôle de la femme, c'est quand même, le bon Dieu qui a voulu ça comme ça, c'est quand même, quand c'est possible, de rester à la maison, s'occuper des enfants. Donc, il faut que vous sachiez une chose, c'est que la femme a 10 millions de fois moins de tentations qu'un homme qui est obligé de travailler dans une grande ville. Bon, un homme qui est obligé de travailler dans une grande ville et qui fait, je sais pas, qui travaille dans un bureau, par exemple, un bureau d'études, je ne sais pas trop quoi, vous ne pouvez quand même pas lui demander à votre mari de mettre des lunettes noires et puis un voile noir devant les yeux, plus encore une djellaba marocaine ou algérienne ou je ne sais pas trop quoi, pour qu'il ne voit plus rien. Bon, qu'est-ce que vous voulez ? Vous ne pouvez pas échanger, c'est comme ça. Donc, il faut savoir que la plupart des hommes, même, je dis bien, même sans faute de leur part, ont été un peu influencés par cet état d'esprit qui consiste plus ou moins à considérer la femme comme un simple objet. Bon. Donc les hommes doivent réagir là-dessus. Qu'on le veuille ou non, ils sont contaminés. Quand un homme me dit, monsieur l'abbé, j'ai jamais été contaminé par ça, bon, je veux bien, mais permettez-moi de vous dire que c'est quand même relativement rare. Il y a, à Saint-Joseph, il y en a eu un, mais à mon avis, à ma connaissance, il a déjà été pris, choisi par la Sainte Vierge Marie, il n'y en a pas un qui se promène tous les 5 mètres dans la rue. C'est relativement rare. Donc il faut le savoir. Donc les hommes doivent savoir que à leur corps défendant, ils ont été contaminés par tout ça. Ils ont été contaminés, je dirais, par une ambiance, j'ai utilisé le mot contraceptive dans cette lettre que vous avez sous les yeux, donc c'est la lettre, le numéro pour ceux qui écoutent sur Internet, la lettre numéro 12, dans sur le site Internet. Donc, qu'ils le veuillent ou non, ils ont été contaminés par cette ambiance qu'on pourrait appeler cette ambiance sexy, cette ambiance plus ou moins pornographique, qui va pousser l'homme à ne considérer en la femme qu'un objet. Bon. Si vous détruisez votre mariage, vous provoquez des grosses difficultés, je vous conseille de considérer votre femme comme un objet pour les hommes. Si une femme considère sa femme comme un objet, le mariage ne marchera jamais. Ça va vite éclater, très très vite. Donc là, les hommes doivent faire attention à avoir un respect très important pour leurs épouses. Maintenant, deuxième volet, je m'excuse d'être un peu direct, mais je pense que vous devez savoir toutes ces choses-là. La femme doit aussi savoir qu'à cause de la différence de psychologie entre l'homme et la femme a beaucoup moins besoin de la relation conjugale que l'homme. Pourquoi ? Et la première raison est une raison biologique. C'est que le bon Dieu a voulu qu'il y ait un cycle pour la femme, il n'y en a pas pour l'homme. Deuxièmement, le bon Dieu a voulu que pour la femme, à partir de la cinquantaine, parfois avant, parfois après, il y ait ce qu'on appelle la ménopause. Bon, la ménopause entraîne chez la femme un certain relâchement, je dirais, de la pression qui vient de toutes ces choses-là, et ce qui c'est très fréquent, de voir des épouses qui arrivent à 50 ans ne plus avoir du tout le désir de l'activité conjugale avec leur mari. Alors, il faut faire attention. Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui arrivent à 50 ans, elles disent « Bon, maintenant je suis en ménopause, alors pouf, les histoires de relations conjugales entre époux, ça c'est pour les jeunes. Moi, je commence à être un peu vieille. Donc, mon mari, à partir d'aujourd'hui, ben, il peut me regarder avec une longue vue de loin. Et puis, c'est tout. Et puis, on ne se touche plus. Parce que d'abord, il faut qu'on se sanctifie un petit peu pour ne pas les fautes du passé. Et puis, on n'a plus besoin de ça. D'ailleurs, moi, j'en ai plus besoin. Donc, lui non plus. Attendez, mademoiselle, monsieur, madame, pardon. Votre mari, à ma connaissance, lui, ne fait pas de ménopause. Ce n'est pas la ménopause pour les hommes. Donc, il faut que les femmes en tiennent compte. Hein. C'est des problèmes énormes pour les ménages de la qui arrivent à la soixantaine. Et des hommes qui nous disent, en plus c'est très très délicat parce que les femmes n'en parlent jamais au confessionnal. Elles ont une espèce de pudeur. Elles refusent d'en parler au confessionnal. Moi je suis lié par un secret de confession, mais des maris qui disent, vous savez, ça devient impossible. Je ne peux même plus toucher ma femme. Je ne peux plus regarder ma femme, je ne peux plus la toucher parce qu'elle considère qu'elle a passé la cinquantaine et que maintenant ça c'est des choses pour les jeunes, on n'a plus besoin de relation conjugale. Vous savez, moi j'en ai besoin. Et on n'arrive pratiquement pas à en parler, les époux n'arrivent pas à en parler entre eux, parce que l'épouse refuse catégoriquement d'aborder même le sujet. Vous voyez ? Donc là, attention. Vous voyez, c'est des choses auxquelles il faut faire attention. Ça entraîne à ce moment-là chez les hommes une espèce de frustration très forte qui peut tomber dans deux excès de conséquences. Première conséquence, cette frustration, une espèce de d'agressivité avec son épouse, il va commencer à la rembarrer, à être même violent par voix, voire même physiquement avec elle, et les épouses ne sont absolument pas contre que c'est elles qui sont responsables. Bon. Deuxième tendance, malheureusement dans certains cas, ce qui n'est pas une excuse, hein, les époux peuvent être tentés d'aller chercher ailleurs. Bon, ça c'est inadmissible. Et qu'un époux ne va pas me dire, monsieur l'abbé, mon épouse ne me se refuse à moi, donc je vais aller chercher ailleurs. Bon. Ça n'excuse pas le péché de l'homme, attention. Cependant, il faut que la femme considère qu'elle a la moitié de la responsabilité. Une femme qui se refuse systématiquement à son épouse sans qu'il y ait une raison grave, proportionnée, la raison classique, bon, c'est ce qu'on dit dans les théologies morales sur le sujet, c'est l'infidélité. Bon, l'infidélité ou un comportement tel que l'épouse aurait le droit de se refuser à son mari. Par exemple, imaginez un époux qui boit tellement que ben il est complètement sous à chaque fois qu'il revient à la maison et qui demande dans ces conditions le rapport conjugal. La femme, dans cette condition, a le droit de dire non. Pourquoi ? Parce qu'il y a un respect que l'époux doit avoir pour son épouse, qu'il n'est pas capable d'avoir, puisqu'il a pris ton bouteille de whisky avant de monter la chambre à coucher. Bon, alors là, elle a le droit de dire non. Vous voyez ? Ça, oui, il faut savoir bien connaître toutes ces choses. Donc, une fois que ces choses sont nettes, donc on peut à ce moment-là expliquer la doctrine de l'Église, donc je vous l'ai déjà expliqué en partie, donc je reprends là-dessus les choses. Donc, l'acte conjugal entre un époux et une épouse, d'abord, l'acte conjugal, c'est pour ça qu'il faut utiliser le terme conjugal, c'est bien mieux que d'utiliser le terme sexuel. C'est l'acte conjugal. Ça veut dire conjugal. Ça veut dire que c'est un acte qui n'est licite qu'entre coniuges. Coniuges en latin, c'est les époux. D'accord ? Donc l'acte conjugal, qui est pécamineux entre personnes qui ne sont pas mariées, devient non seulement non pécamineux entre personnes mariées, mais vertueux. Attention, pas oublier ça. Beaucoup de femmes oublient ça. C'est-à-dire, l'acte conjugal entre des époux est un acte de vertu. D'accord ? Je pense qu'il faut que les choses soient claires. C'est un acte de vertu, parce que c'est le moyen de sanctification que le bon Dieu a voulu pour toutes les personnes mariées, tout simplement. D'accord ? Donc, l'acte est parfaitement légitime entre époux, et uniquement entre époux. Et le but de cet acte, c'est, comme fin première, on l'a déjà expliqué, la procréation, puis l'éducation des enfants. Bon. Donc, les époux ont le droit, ont le devoir même, de toujours respecter la fin première du mariage, à savoir la procréation des enfants. Ceci dit, le bon Dieu a aussi voulu, dans le mariage, des fins secondaires. Il ne faut peut-être pas les oublier. Fins secondaires, ça veut dire qu'elles sont soumises à la fin première. Donc, il serait hérétique et faux de dire que les deux fins du mariage, à savoir l'amour mutuel entre les époux et la procréation, sont placées au même niveau. Ça, c'est faux. La fin secondaire est en dessous de la fin primaire. Mais il ne faut pas dire non plus que la fin secondaire n'existe pas. Elle existe, attention. Elle existe et donc, on a le droit d'avoir des relations sexuelles, ou conjugales plus exactement, pour satisfaire la fin secondaire du mariage. Donc, si le bon Dieu a voulu qu'un certain nombre de jours par mois, l'épouse ne puisse pas avoir d'enfant, des époux ont donc parfaitement le droit d'avoir des relations conjugales, même dans cette période-là, même s'ils savent très bien que l'épouse ne peut pas concevoir pendant cette période. J'ai connu des catholiques, dont je ne donnerai pas les noms, mais j'en ai connu, j'ai vu des ostrogoths pareils, qui avaient le culot de me dire « Monsieur l'abbé, vous n'avez pas le droit d'enseigner ça. Deux époux ont le droit d'avoir un acte conjugal exclusivement quand ils sont sûrs de pouvoir un enfant. » En bon français, ça veut dire que monsieur et madame ont le droit de s'unir physiquement une fois tous les 9 mois et encore. Bon. Vous voulez rendre les gens fous, je vous conseille de prendre ça comme méthode. Si vous décidez avec votre épouse d'avoir un rapport conjugal une fois tous les 9 mois, bon courage. Mais il ne faudra pas venir me voir en me disant, monsieur l'abbé, il faut peut-être venir en même temps rattraper toutes les assiettes cassées. Hein. Parce que le bon Dieu a tout simplement jamais demandé ça. Il n'y a pas un seul texte de l'Église sur le sujet. En fait, attention, parce que ça, c'est des textes qu'on trouve sur Internet. Comme à Internet, on peut dire n'importe quoi, qu'en général, on est couvert par un anonymat plus ou moins relatif parce qu'on signe sous un prénom. On peut raconter n'importe quoi. J'ai vu des gens qui sont venus me sortir des âneries pareilles directement en face. Non, ce n'est pas l'enseignement de l'Église. Bon. Donc, des époux ont parfaitement le droit d'avoir un acte conjugal entre eux, de satisfaire à ce besoin qu'ont les deux époux. En satisfaisant ce besoin et ce droit, et ce qu'on appelle le dû conjugal, non seulement ils se font plaisir mutuellement, mais c'est un acte vertueux, j'insiste là-dessus. Ils font non seulement plaisir à chaque époux, mais ils font plaisir au bon Dieu aussi. Parce que le bon Dieu a voulu cet acte. D'accord ? Alors la question qui se pose, c'est la question que va poser le pape Pie XII. Le pape Pie XII, justement, a eu le courage d'aborder ce sujet, qui était plutôt un sujet tabou, surtout encore autour des années 50. Le pape Pie XII a donc voulu répondre à la question qui avait été posée à nombreuses reprises par l'intermédiaire des évêques. Vous savez qu'à l'époque où on avait des papes, jusqu'à la mort du pape Pie XII, n'importe quel chrétien avait le droit d'écrire une question dogmatique, une question de théologie, une question de théologie morale, d'envoyer ça au dicastère compétent à Rome, en disant, voilà, est-ce que je suis obligé, avec mon épouse, de n'avoir des rapports sexuels avec elle que pendant les périodes où elle est féconde? Est-ce que j'ai le droit d'avoir habituellement des rapports conjugaux avec elle, aussi dans les périodes agénésiques pendant lesquelles elle ne peut pas avoir d'enfant? Est-ce que j'ai le droit de n'avoir avec mon épouse des relations conjugales avec elle que dans les périodes agénésiques quand je suis sûr qu'elle ne peut pas avoir d'enfant? Et Rome répondait. Donc Rome a reçu toute une série de questions sur ce genre, surtout en 1950, c'est déjà un peu les nouvelles idées modernes, libérales qui commencent à surgir après-guerre. Donc Rome a répondu comme c'était le devoir. Et le pape Pie XII a répondu. Donc, il est faux de vouloir opposer le pape Pie XII et le pape Pie XI. C'est comme si je disais, le pape Pie XI s'est trompé dans la condamnation des Christéros, donc il n'est pas pape. Paf. Alors, ensuite, c'est un Pie X. Bon. Ben non, vous me croirez si vous voulez, moi j'ai entendu des catholiques de tradition qui prétendent que Saint Ignace de Loyola n'est pas canonisé, que l'Église a fait une erreur en canonisant Saint Ignace. Et ça, c'est très en vogue dans les milieux de la tradition. Dans les milieux de la tradition catholique, il y a des gens qui se moquent constamment des jésuites, qu'ils appellent ça les jèses, et donc les jésuites sont cause de tous les malheurs de la création. Bon. Donc on appelle Saint Ignace, le général des jésuites, le pape noir. Bon, il y a des textes qui pullulent sur Internet actuellement et qui prétendent que, en fait, celui qui a dirigé toutes les guises, ceux qui ont dirigé toutes les guises pendant des siècles et des siècles, c'est le supérieur général, le général des jésuites, à savoir le pape noir. C'est totalement faux. Hein? Quelqu'un qui nierait la canonisation de Saint Ignace, c'est tout simplement hérétique, parce que le pape est infaillible dans la canonisation, je vous rappelle. Bon. Je vous donne un exemple. Je donne un exemple parce que c'est comme ça que le démon travaille. Le démon, il travaille avec des tentations sous apparence de bien. Il utilise les choses qui sont bonnes, et puis là-dedans, hop, il glisse sa patte. Prenez un groupe, par exemple, dont on parle énormément aujourd'hui, à mon avis beaucoup trop, qui s'appelle un groupe de chanteuses qui s'appelle les Brigandes. Bon, tout le monde a entendu parler des Brigandes. J'en reçois constamment les chansons des Brigandes qui arrivent sur ma boîte internet envoyée par je ne sais pas trop qui. Bon, c'est sûr qu'il y a un petit côté sympa chez ces filles. Bon. elles ont un certain sens, une certaine provocation dans le bon sens au niveau des paroles. La musique est pas mal. Bon, il y a parfois des vidéos qui vont avec qui sont intéressantes. Ça, c'est la partie grand spectacle. Bon. En fait, quand vous commencez un peu à creuser, derrière les brigandes, il y a un lobby de gens qui supportent les brigandes, qui ont un réseau de conférences qui s'appelle Radio Brigande. Bon. À Radio Brigande, il y a des horreurs qui sont proférées. Vous voyez ? Moi, j'ai entendu une conférence de Radio Brigande. C'est pas fait par elle directement, c'est fait par les petits amis ou les maris de ces jeunes filles. Je pense peut-être qu'elles sont mariées, je ne sais pas si c'est les maris, les petits amis, etc. Bon, on n'en sait rien du tout. Quoi qu'il en soit, il y a toute une Radio Brigande sur les jésuites, c'est une horreur. On a vraiment l'impression d'entendre des modernistes endiablés qui se moquent complètement du jésuite, qui disent que Saint-Ignace n'est absolument pas un saint, n'importe quoi. Oui. Donc, il faut faire attention. Oui, dans tous ces domaines, on suit ce que l'Église catholique a toujours suivi. Donc, si j'avais un conseil à dire à ces charmantes jeunes filles, si un jour elles viennent faire la retraite, il n'y a pas beaucoup de risques, mais enfin, on ne sait jamais, tout peut arriver. Supposez que ces jeunes filles du groupe Les Brigandes qui viennent faire suivre une autre décision, je dirais, mademoiselle, vous allez vous occuper de musique et vous ne touchez pas la théologie avec trois paires de gants, d'accord ? Parce qu'on ne touche pas à la théologie quand on ne connaît rien sur le sujet. Alors, vous pouvez parler musique, vous pouvez faire vos chants si vous voulez, mais vous ne lâchez pas dans la théologie. Vous voyez ? Donc ça, c'est important. Alors, je reprends donc ce que je disais à propos du texte de Pie XI. Donc, vous avez ces textes qui sont très importants, donc connaissez-les bien. Donc, encore une fois, vous avez ces textes que j'ai résumés dans la lettre numéro 12. Donc, n'oubliez pas la doctrine de l'Église, c'est la doctrine de Saint Paul, qui explique expressément que la femme sera sauvée en devenant mère, pourvu qu'elle persévère dans la foi, dans la charité, dans la sainteté. Ça veut dire, le moyen habituel, normal de sanctification d'une épouse, c'est par la maternité. Il peut y avoir des exceptions voulues par la nature ou permises par le bon Dieu, tout simplement parce qu'une personne ne peut pas avoir d'enfant, parce qu'une personne, pour une raison ou pour une autre, ne peut pas devenir mère. Bon. Alors, quel est l'enseignement de l'Église sur le sujet ? Donc, pour si vous avez la lettre devant vous, donc c'est en page 3, c'est plus simple d'avoir le texte devant vous. Page 3, la lettre numéro 12, voilà les textes. Donc, aucune raison aussi grave, c'est en bas de la page 3, colonne de gauche. Aucune raison aussi grave soit-elle, ne peut faire, ça c'est Pie XI, que ce qui est intrinsèquement contre nature devienne conforme à la nature et honnête. Puisque l'acte du mariage est par sa nature même destiné à la génération des enfants. Ce qui, en l'accomplissant, s'applique délibérément à lui enlever sa force et son efficacité, agissent contre la nature et font une chose honteuse et intrinsèquement déshonnête. En conséquence, comme certains, s'écartant manifestement de la doctrine chrétienne telle qu'elle a toujours été transmise depuis le commencement et toujours fidèlement gardée, ont jugé bon récemment de prêcher d'une manière retentissante sur ces pratiques notre doctrine, l'Église catholique, debout au milieu de ces ruines morales, élève bien haut la voix par notre bouche en signe de sa divine mission pour garder la chasteté du lit nuptial à l'abri de toute souillure. L'Église catholique, au haut de la page 3, colonne de droite. L'Église catholique promulgue de nouveau que tout usage du mariage, quel qu'il soit, dans l'exercice duquel l'acte est privé par l'artifice des hommes de sa puissance naturelle de procréer la vie, offense la loi de Dieu et la loi naturelle, et que ceux qui auraient soumis quelque chose de pareil se sont souillés d'une faute grave. Tout attentat des époux dans l'accomplissement de l'acte conjugal ou dans les développements de ses conséquences naturelles, attentat ayant pour but de le priver de la puissance qui lui est inhérente et d'empêcher la procréation d'une nouvelle vie, est immoral. De plus, faire d'une action intrinsèquement immorale un acte moral est licite. Cette prescription est en pleine vigueur aujourd'hui comme hier, elle le sera demain et toujours parce qu'elle n'est pas un simple précepte de droit naturel, mais l'expression d'une loi naturelle et divine. Donc c'est clair et net, le bon Dieu a voulu l'acte conjugal pour la procréation. Bon. Maintenant, le texte de Pie XII. Bon, là c'est en page 4. Hein. Alors, qu'est-ce que dit Pie XII ? Pie XII, en aucune manière, en aucune façon, n'annule le texte de Pie XI. Il y a une continuation, simplement une explication. C'est-à-dire que sous Pie XII et maintenant et jusqu'à la fin des temps, des époux qui refuse systématiquement d'avoir, qui triche avec l'acte conjugal de façon à empêcher la fécondation, prêche gravement contre les lois du mariage. Vous lui parlez, bon Dieu. Maintenant, deuxième question. Attention, c'est une question séparée de la première. Le bon Dieu a voulu que la femme ait une période pendant laquelle, dans son cycle menstruel, dans lequel elle ne puisse pas avoir d'enfant. Bon. Est-il légitime pour des époux d'avoir des relations conjugales dans cette période de temps? La réponse est évidente, oui. Bon. Oui, il est parfaitement légitime pour des époux d'avoir des relations conjugales entre eux, entre époux, même dans les périodes où ils sont sûrs que l'épouse ne peut pas tomber enceinte. Ça répond déjà à une première ânerie dite par beaucoup de gens qui précise que des époux n'ont le droit d'avoir des relations que lorsqu'ils sont sûrs d'avoir des enfants, ce qui est faux. Deuxième question, et c'est à cette question à laquelle va répondre le pape Pie XII, des époux ont-ils le droit de n'avoir des relations que dans ces périodes où ils savent que l'épouse ne peut pas avoir d'enfants, ce qu'on appelle les périodes agénésiques. Voilà ce que dit le pape Pie XII, de cette prestation positive obligatoire. Donc, il ne nie pas du tout l'obligation d'avoir des enfants. De cette prestation positive obligatoire, certains peuvent donc être dispensés même pour longtemps, bien plus même pour toute la durée du mariage, pour des motifs sérieux comme ceux qu'il n'est pas rare de compter dans ce qu'on appelle l'indication médicale, l'indication hygiénique, l'indication économique et sociale. Si cependant, en bas de la page 4, colonne de gauche, il n'y a pas, selon un jugement raisonnable et juste, de semblables raisons graves, personnelles ou provenant de circonstances extérieures, la volonté d'éviter habituellement la fécondité de l'union des deux époux, tout en continuant à satisfaire pleinement leur sensualité, ne peut provenir que d'une appréciation fausse de la vie et de motifs étrangers aux droites règles de la morale. Dieu ne demande pas l'impossible, mais il demande aux époux de vivre dans l'abstinence si leur union ne peut s'accomplir selon les lois de la nature. Quand Dieu commande, il vous avertit de faire ce que vous pouvez, demandez la grâce pour ce que vous ne pouvez pas, et il vous aidera pour que vous puissiez faire ce qui vous est commandé. Bon. Donc, les choses sont claires dans ce domaine. Alors, attention, le pape Pie XII ne dit pas que des époux ont le droit de pratiquer une méthode naturelle de contrôle des naissances, c'est-à-dire de n'avoir des rapports que dans les périodes agénésiques, et que ceci est sans condition n'importe quand dans la durée du mariage. Non, le pape en fait dit le contraire. Ça, il faut savoir lire le texte. Le pape dit expressément, vous n'avez pas le droit de n'avoir des relations que dans les périodes agénésiques, sauf si vous êtes dans une situation indépendamment de votre volonté propre, dans ce que le pape appelle une éducation médicale, hygiénique ou économique et sociale. Il dit bien, dans cette situation que vous ne contrôlez pas, c'est ce qu'on appelle la volonté de bon plaisir du bon Dieu qui est manifestée par les circonstances. Bon. Dans cette circonstance, vous avez le droit d'avoir des relations conjugales entre époux exclusivement dans ces périodes-là, parce que la situation de votre vie vous autorise à faire la chose. Oui. C'est gravissime d'avoir des idées claires sur ce sujet. Si je dis ce que beaucoup de gens disent dans la tradition, y compris c'est des vagrantistes, parce que j'ai pas mal, je pourrais donner des noms, mais je ne les donnerai pas pour ce que ça passe sur Internet. Bon, mais beaucoup de gens disent que des époux ne peuvent avoir des relations que lorsqu'ils sont sûrs d'avoir des enfants. Ça voudrait dire que des époux qui se marient et qui ne peuvent pas avoir d'enfants pour une raison médicale, par exemple, imaginez une jeune fille qui a eu un cancer de l'utérus, un cancer ovarien, qui a eu une hystérectomie, j'en ai déjà parlé, qui se retrouve avec l'impossibilité d'enfanter. Donc, si je suis les analystes, ces gens jansénistes qui racontent des bêtises pareilles, ça voudrait dire que cette personne n'a pas le droit de se marier et que si elle se marie, c'est invalide. L'Église n'a jamais enseigné ça. L'Église enseigne que une personne qui, pour une raison indépendante de sa volonté, c'est une croix terrible pour une femme, ne peut pas avoir d'enfant, elle peut quand même se marier. Pourquoi? Parce que l'éducation secondaire, la fin secondaire du mariage peut toujours être établie. D'accord? Donc, alors qu'est-ce que dit le pape Pie XII? Non. Si des époux se retrouvent dans certaines situations indépendantes de leur volonté, et uniquement quand ils s'y trouvent dans cette situation, ils ont le droit d'avoir des relations conjugales que dans les périodes agénésiques. Attention, il y a des prêtres qui disent, j'en ai entendu plein, y compris dans la fraternité, qui racontent que le pape Pie XII a autorisé de façon inconditionnelle l'usage des méthodes agénésiques. C'est d'usage des périodes agiogéniques. C'est faux. Le pape XII donne bien certains motifs. Alors, il a justement volontairement évité de définir les trois indications dont il parle. C'est un peu curieux dans le texte. Il parle d'une indication médicale, eugénique, économique et sociale. Il ne donne pas la définition de ces temps pour bien vouloir. C'est ça, il dit clairement, il manifeste clairement qu'il sait très bien que là vont intervenir la vertu, va intervenir la vertu de prudence, le jugement moral sur ce genre d'activité, et qu'en fonction des situations, en fonction des circonstances, les choses peuvent changer. Donc qu'est-ce qu'il dit ? Il dit que en cas d'indication médicale, des époux ont le droit d'avoir des rapports conjugaux entre eux dans les méthodes, dans les périodes agénésiques et uniquement dans ces méthodes. Qu'est-ce que c'est qu'une indication médicale ? C'est quand une nouvelle grossesse mettrait la vie ou la santé de la mère en sérieux danger. Bon, contrairement à ce qu'on croit, c'est relativement fréquent. Bon, exemple, moi j'ai une amie comme ça. La pauvre, elle a, je ne sais pas quoi, un enfant elle a maintenant, une famille nombreuse, mais quand elle a, elle attend un enfant, quand elle se retrouve enceinte, elle est obligée de garder le lit pendant 6 mois. 6 mois, elle perd l'enfant. Bon, à cause de problèmes d'ordre médical, elle perd l'enfant, elle ne peut pas bouger pendant 6 mois. 6 mois, elle est cloîtrée au lit. Elle a des petits-enfants qui sont encore jeunes. Bon, donc, la question s'est posée, hein, cette personne m'a la question, vous savez, est-ce que j'ai le droit avec mon mari de pratiquer la méthode naturelle de contrôle des naissances, puisque le pape Pie XII semble autorisé, est-ce que dans ma situation j'ai le droit de le faire ? Je suis répondu, bien sûr, c'est exactement l'indication médicale dont le pape Pie XII parle. Parce qu'on ne peut pas obliger une maman qui est dans un cas comme ça, de rester au lit si elle sait que personne ne peut s'occuper des petits-enfants. Les enfants, ils sont encore des nourrissons ou des enfants en bas âge dans la maison, bien quelqu'un s'en occupe. Bon, alors, si vous avez 150 lingots d'or cachés dans votre cave et que vous pouvez les utiliser pour avoir quelqu'un qui s'occupe des enfants, très bien. Mais si vous n'en avez pas, vous êtes obligé de vous en occuper vous-même. Bon, alors, le nombre de nos fidèles qui ont 150 lingots d'or cachés dans leur cave est quand même relativement limité à ma connaissance au moins. Et donc, des époux comme ça ont le droit, dans ces cas-là, de, si la maman est dans une situation de ce genre, pendant la période où elle est comme ça, eh bien, ils ont le droit de pratiquer une méthode naturelle de contrôle des naissances. Deuxième cas, l'indication eugénique. Ça, est beaucoup plus rare, actuellement. L'indication eugénique, c'est quand, c'est l'explication des moralistes, une quasi-certitude de mettre au monde un enfant taré ou mal formé, au physique ou au moral. C'est-à-dire, si les parents... savent très bien qu'ils vont, à cause de tout un problème génétique, de consanguinité, etc., c'est maladie assez complexe, parfois, qui font que, à cause d'incompatibilité sanguine génétique entre le génome de la femme et le génome du mari, il y a parfois des incompatibilités telles que tous les enfants vont être très très sérieusement déformés. Bon. Eh bien, le pape XII dit que dans un cas comme ça, pareil, vous avez le droit d'utiliser une méthode naturelle de contrôle des naissances. Troisième cas, qui lui est beaucoup plus fréquent, le contrôle, l'indication qu'il appelle économique et sociale. C'est quand la situation matérielle de la famille ne permet pas d'envisager une nouvelle naissance pour le moment. Alors, il y a plusieurs exemples qu'on peut donner. Aujourd'hui, plus que jamais, l'exemple le plus fréquent, c'est le mari qui perd son boulot. Le mari qui perd son boulot, un monsieur perd son boulot. Alors les puristes vont dire, monsieur a perdu son boulot, très bien, qui pratique la chasteté avec son épouse. Non, mais attendez. Le mari qui a perdu le boulot, c'est peut-être le moment au plus où il a besoin d'être consolé par son épouse, y compris sur le plan physique. Donc, un mari qui a perdu son épouse, pour ne pas se décourager... pardon, excusez-moi, j'ai dit...
Qui a perdu son épouse.
Non, c'est pas ça. Un mari qui a perdu son boulot, je m'excuse, je reprends. Un mari qui a perdu son boulot, son travail, eh bien, il a besoin justement d'une compréhension de la part de son épouse et beaucoup de tendresse de la part de l'épouse pour aller tenir le coup et chercher du boulot, etc. Bon. Eh bien, il est évident que dans un cas comme ça, surtout actuellement, surtout par... Imaginez un mari qui a la cinquantaine qui perd son boulot, et tant qu'il court, c'est pas évident de retrouver un travail. Hein. Bon, eh bien, des époux, dans ce cas-là, ont le droit de pratiquer une méthode naturelle de contrôle des naissances tant qu'ils sont dans cette situation. C'est l'enseignement du pape Pie XII. Et on n'a absolument pas le droit de dire que cet enseignement... contredit le pape, l'enseignement du pape Pie XI. C'est tout simplement une clarification rendue nécessaire par des circonstances actuelles qui n'existaient pas, certainement pas au Moyen-Âge, au moins pas dans les mêmes degrés. D'accord ? Alors, ceci dit, je finirai par là, des époux n'ont bien sûr jamais le droit de pratiquer une méthode artificielle de contrôle des naissances. Alors ça, je vous le dis à titre, non pas en tant que prêtre cette fois-ci, mais en tant qu'ancien étudiant en médecine, ça vous devez le savoir parce qu'on ne vous le dira jamais, la plupart des médecins le cachent. Bon. Il y a quand même des choses que vous devez savoir en tant, pour les épouses au moins, et les maris doivent savoir ça. Le bon Dieu a voulu que l'enfant soit dans le sein de sa mère pendant 9 mois. Bon. Au moment où il est temps pour l'enfant qui a fini son développement intra-utérin de sortir par les voies naturelles, le cerveau humain va envoyer dans le sang une hormone qui a des capteurs dans l'utérus. Donc cette hormone passe dans le sang, elle vient de l'hypophyse, une glande qui est derrière le cerveau, qui va mettre dans le sang, c'est bon Dieu qui a prévu tout ça. Il est temps maintenant que l'enfant sorte du cocon de protection que constitue l'utérus, donc il passe à l'extérieur pour commencer sa vie externe, en dehors du corps de sa mère, et donc l'hypophyse va envoyer, je me souviens, c'est grâce à l'hypophyse, envoie dans le sang une hormone spéciale qu'on appelle l'ocytocine, c'est le nom de cette hormone, ocytocine. Et cette hormone a des capteurs dans l'utérus. Quand les capteurs de l'utérus captent cette hormone, ça provoque des contractions intra-utérines. Alors, les médecins, les chirurgiens connaissent bien cette hormone qui a pu être synthétisée. Il existe une synthèse de cette hormone qui est utilisée légalement, illicitement, moralement parlant, par les accoucheurs, les sages-femmes et les médecins qui s'occupent des femmes.
Les
obstétriciens. Voilà, qui est utilisé, qui est très connu. Quand une épouse, une maman doit devenir mère, il est temps pour que l'enfant quitte le sein maternel. Parfois, il y a des problèmes de manque de contraction, donc l'enfant va rentrer à ce qu'on appelle une douleur très forte pour l'enfant, qui est très sensible à ce jour-là. Quand l'accouchement commence à prendre beaucoup trop de temps, ça peut être extrêmement dangereux pour l'enfant. Donc à ce moment-là, on fait une injection d'ocytocine à la maman pour augmenter les contractions utérines et pour faciliter la sortie de l'enfant. C'est parfaitement logique. Bon. Le problème, c'est qu'il y a des petits malins qui se disent on va mettre cette hormone dans les pilules anticonceptionnelles pour que systématiquement l'utérus évacue le contenu de l'utérus et pour être sûr que la maman ne tombe pas enceinte quand elle est sous pilule. Alors rappelez-vous que les pilules contraceptives sont toutes formellement interdites par la loi du bon Dieu. Pourquoi ? Parce que c'est un crime direct, ce qu'on appelle un crime d'onanisme, un crime direct contre la loi divine. Mais vous devez savoir que dans toutes ces pilules modernes, pratiquement toutes, ils ne vous le diront pas, ils mettent de l'ocytocine dedans. Telle façon que quand l'épouse prend la pilule, s'il y a une fécondation, parce que la pilule, dans ce cas, il peut y avoir des cas où justement il y a fécondation intra-utérine, par exemple, donc l'ocytocine va provoquer des contractions de l'utérus et donc évacuer le contenu, dans ce cas, c'est important. Mais il faut le savoir. Il est utile, même très très utile pour une épouse, une femme, d'avoir un bon gynécologue qui est du bon sens, qui est la science, mais qui est surtout la foi catholique, qui puisse vous donner une réponse de gynécologue catholique. Ça ne court pas les rues. On en avait un excellent comme ça, c'était génial. Il était en fin de carrière en plus, il avait la soixantaine, il a dû arrêter de travailler depuis. C'était un gynécologue catholique qui était un de nos fidèles. On lui envoyait systématiquement toutes les épouses qui avaient des problèmes de ce genre parce qu'il donnait aux épouses la position traditionnelle de l'Église catholique sur tous ces domaines-là, qui sont des domaines qui touchent à la médecine. Mais ça, c'est très important. Alors, pour ça, je vous conseille beaucoup, pour plus de détails dans ce domaine, consulter, étudier un peu, et procurez-vous le livre du Père Barbara, la catéchisme catholique du mariage, qui explique bien tout ça. D'accord. Bon, on va terminer là. Relisez attentivement ces textes. Encore une fois, on pourrait en parler pendant des heures et des heures. Je vous donne les grandes lignes. Bon, il y a souvent des choses qui doivent être réglées au confessionnal. Souvent, quand les épouses peuvent avoir des problèmes d'ordre moral, c'est du domaine du confessionnal. Il faut parler au confessionnal, n'hésitez pas. C'est évident que même une fois que vous êtes marié, je suis à votre disposition pour vous aider dans le domaine qui est le mien, c'est-à-dire le domaine théologique. Bon. Très souvent, ça m'arrive, les gens me posent des questions, j'ai écouté, là, c'est une réponse qui est dans le domaine médical, et je n'ai pas autorité pour ça. Je vous envoie chez un bon médecin, quand je donne l'adresse d'un ou deux médecins, je connais un bon médecin catholique, par exemple, sur Nantes, le docteur de Courcy, qui est un excellent médecin catholique qui peut donner la doctrine traditionnelle de l'Église sur tous ces sujets-là. Bon, il est utile d'avoir, je ne sais pas s'il y en a dans la région ici, de Bordeaux, mais d'avoir un médecin catholique en qui vous puissiez vous confier, qui peut donner l'opinion catholique que doit donner un médecin catholique. Voilà, on termine par la petite prière, et puis on se retrouve à 5 heures. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il.
Nos saints anges gardiens,
veillez sur nous.
Saint Pédis,
priez pour nous.
Saint Joseph,
priez pour nous.
Du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.